aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du 5 novembre 2014.
À Washington, Chérubin Dorcil et Morgane Guiriec.
Au sommaire de cette édition, à quand le passage du pouvoir au civil à Ouagadougou? Une délégation de 3 chefs d'État africains était sur place aujourd'hui dans la capitale burkinabé pour en discuter.
Toujours au Burkina, arrestation du chef du parti de Blaise Compaoré.
Élection de mi-mandat aux États-Unis. Les républicains reprennent le contrôle du Congrès.
Tension en Israël suite à une nouvelle attaque à Jérusalem et le retrait de l'ambassadeur de la Jordanie à Tel Aviv.
Et nous aurons bien sûr les sports en fin d'émission, mais d'abord le journal. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida a discuté de modalités de transfert rapide du pouvoir à des civils avec le président ghanéen John Dramani Mahama, le sénégalais Macky Sall et le nigérian Goodluck Jonathan. Les 3 chefs d'État devaient rencontrer aussi les différents acteurs de la crise. Nous avons en ligne notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo. Bonsoir Zoum.
Oui, bonsoir.
Comment s'est déroulée cette rencontre entre les chefs d'État africains et les leaders burkinabés?
Tout s'est déroulé très bien jusqu'à la plénière. C'est à la plénière, il y a à peine 10 minutes, que l'opposition et les organisations de la société civile ont décidé de quitter la table des négociations. Et pour cause, la réunion, les chefs d'État ont invité à la même table que l'ex-parti majoritaire, les partisans de Blaise Compaoré. Ils estiment avoir toujours leur mort sous les bras, avoir toujours leur douleur en eux, et donc ne pas partager la même table de négociation avec ceux qui ont tiré rien qu'hier sur eux. Donc ils ont quitté la table. Et l'opposition et les organisations de la société civile.
Vous parlez de réunion plénière, Zoumana Wonogo. Donc d'abord, les chefs d'État africains ont rencontré les militaires?
Oui, ils ont rencontré en fait 6 composantes de la société burkinabé, à savoir l'agence militaire, les religieux, les organisations de la société civile, l'opposition et le parti majoritaire, ou du moins l'ex-parti majoritaire. Et ils ont demandé à chaque parti de venir leur proposer 3 noms. Et c'est la 7 plénière qui est en train de se terminer en queue de poisson devrait permettre de voir parmi les 18 noms qui sont assis, groupe 3 fois 6, 18, parmi les 18 noms qui retiennent pour être le président de la transition.
Brièvement, Zoum, pourquoi l'opposition a-t-elle claqué la porte?
Avec la donne, vous n'avez pas partagé la même table que ceux qui ont tué leurs militants et leurs sympathisants hier, c'est dans un devenu un brouhaha énorme dans le monde de l'hôtel. Donc, l'opposition et les GFC disent qu'ils n'ont pas fait comme ils veulent et ils ne vont jamais passer la table. En tout cas, pour le moment, avec.
Est-ce qu'il y a des noms qui circulent aujourd'hui à Ouagadougou pour diriger la transition?
Oui, il y avait quelques noms. Précisément, les organisations de la société civile avaient retenu l'évêque de Burkina Faso, la deuxième ville du Faso, c'est le monseigneur Paul Ouédraogo. Elles ont retenu aussi le journaliste Chérif Si, elles ont retenu aussi le journaliste Milton Ahmed Barry. Mais l'opposition, quant à elle, avait décidé de ne même pas donner de nom parce qu'on leur a donné tout juste 2 heures de temps pour choisir un président. Elle estime que cette fonction a une telle importance qu'on ne peut pas choisir un président de la transition comme on choisirait un gardien d'immeuble.
Les chefs d'État ont-ils déjà quitté Ouagadougou?
Non, les chefs d'État, comme les deux partis officiels, les GFC ont quitté la table des négociations, la sécurité a refermé la porte ils sont actuellement avec l'agence militaire et l'ex-parti majoritaire. Ils n'ont pas quitté d'abord Ouagadougou.
Merci Zoumana Ounogo, notre correspondant dans la capitale du Burkina Faso.
Signalons aussi que Assimi Kouanda, le chef du parti du président burkinabé déchu Blaise Compaoré, a été arrêté mardi soir, rapporte l'AFP, citant des sources sécuritaires. Monsieur Kouanda, secrétaire exécutif national du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, a été convoqué par la gendarmerie suite à des propos pouvant troubler l'ordre public et appelant à des manifestations, a déclaré l'AFP. Un officier de gendarmerie ensuite été arrêté, a indiqué une autre source sécuritaire.
Et la destitution du président Blaise Compaoré au Burkina Faso suscite bien des comparaisons dans le reste du continent. En Angola, l'opposant Rafael Marques de Moraes met en garde le président angolais José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 35 ans. Il devrait préparer son départ s'il ne veut pas subir le sort de son homologue burkinabé Blaise Compaoré, a-t-il déclaré à l'AFP.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum, ce jeudi plein feu sur les élections de mi-mandat aux États-Unis, sans oublier bien évidemment un suivi de la situation au Burkina Faso. Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique, rendez-vous ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Ici aux États-Unis, les Républicains ont repris le contrôle du Sénat et consolidé leur emprise sur la Chambre des représentants. Ils ont raflé la majorité dans les deux chambres du Congrès pour les deux dernières années de la présidence de Barack Obama. Jean-Roger Billon nous en dit plus.
Avant les élections, les démocrates avaient 55 sièges sur les 100 que compte le Sénat. Mais les républicains ont conquis au moins 7 nouveaux sièges avec leur victoire dans l'Arkansas, le Colorado, l'Iowa, le Montana, la Caroline du Nord, le Dakota du Sud et la Virginie occidentale. Et il restait encore 3 circonscriptions incertaines ce mercredi. C'est un cinglant réveil pour le président Obama, qui n'était certes pas candidat, mais dont la politique était soumise à une sorte de référendum. Le sénateur républicain Mitch McConnell du Kentucky, qui a facilement été réélu, est en passe de devenir le leader de la majorité au Sénat. Il a promis de rechercher un consensus avec M. Obama sur certaines questions, mais lors de la nuit électorale, il a aussi promis de poursuivre les efforts de son parti en vue de revoir la taille du gouvernement fédéral.
Mes amis, cette expérience avec un gouvernement budgétivore a assez duré. Il est temps d'aller dans une autre direction.
Les républicains auront non seulement le contrôle du Sénat à partir du mois de janvier, mais ils ont gagné en plus 13 sièges sur les 435 membres de la Chambre des représentants qu'ils dominaient déjà. En contrôlant les deux chambres du Congrès, ils pourraient remettre sur la table les différents contentieux avec le président Obama, avec en prime la question de la réforme des soins de santé ou Obamacare. De nombreux républicains ont toujours dénoncé la trop grande implication du gouvernement et demandé à plusieurs reprises son abrogation.
Obamacare, il y a eu d'ailleurs plusieurs votes à la Chambre des représentants contre cette loi phare de l'administration Obama. Nous avons en studio Idrissa Seloudia. Salut Idrissa.
Salut Chérubin.
Et vous pensez que pendant ces deux dernières années de la présidence Obama, on assistera à d'autres votes contre cette loi?
Bon, d'abord, une réponse plus générale, je ne pense pas. Le climat est au compromis actuellement. Le message des électeurs est très clair, le ras-le-bol, on a ras-le-bol de cette impasse et de ces politiciens qui se blâment mutuellement. On n'a pas beaucoup entendu parler du Tea Party, si vous avez fait la remarque, cher Rubin.
C'est cette frange très conservatrice.
Exactement,
du Parti républicain.
Exactement, et qui semble tenir en otage le Parti républicain. Il semble que l'établissement républicain semble avoir repris le dessus et Mitch Connell au Sénat et John Boehner à la Chambre des représentants sont en réalité plus modérés qu'on ne le pense. S'ils sont intéressés, comme ils le disent, par l'obtention de résultats, le pragmatisme devrait l'emporter au cours des deux prochaines années. Maintenant, plus spécifiquement, concernant l'Obamacare, la bataille a été livrée, à mon avis, il y a plus d'un an, et les républicains ont perdu, surtout à cause de la fermeture du gouvernement fédéral, et des pertes que cela avait occasionnées, sans compter la perte de prestige que le Parti républicain avait essuyé. Alors, avant l'élection, John Barroso, du Wyoming, républicain du Wyoming, avait dit qu'il était invraisemblable que l'on remette sur le tapis Obamacare parce que le président sera là encore pendant 2 ans et il ne va pas promulguer la loi. Et en outre, eh bien, les républicains, comme on s'en est rendu compte, n'ont pas eu la majorité des 2/3 qu'il faudrait pour passer outre non seulement à la Chambre, mais aussi au Sénat. au veto présidentiel.
Et on se demande déjà, Idrissa Seydoudia, si Barack Obama va faire quoi que ce soit sur le dossier de l'immigration.
Il avait dit qu'il allait attendre les élections avant de prendre des décrets. Apparemment, même ça lui a coûté l'élection au Colorado, parce que les Hispaniques, apparemment, ne sont pas allés nombreux aux urnes pour pouvoir voter en faveur du candidat démocrate. Mais je ne pense pas qu'avec le climat actuel qui règne, que M. Obama prendrait, des décrets sur ce dossier très sensible, dans la mesure où, si l'on veut le compromis, on ne va pas prendre des décisions qui vont apparaître comme de la provocation.
Les Républicains sont encore en train de savourer leur victoire électorale, Idrissa Seydoudia, mais il n'est peut-être pas trop tôt de penser à 2016.
Eh bien, il faudrait attendre maintenant de voir ce que les Républicains vont faire. Parce que bon, maintenant qu'on leur a confié les deux chambres, ils vont pouvoir produire des résultats. Et ce sont ces résultats, s'ils sont pragmatiques, s'ils cultivent le pragmatisme, ils devront produire des résultats qu'ils présenteront au public en 2016 en disant « Regardez, quand vous nous conviez le pouvoir, nous sommes capables de faire plus que de l'obstructionnisme. »
Mais l'échéance électorale 2016 pourrait aussi gêner l'action dans les deux camps, tant du côté de la présidence d'Obama que du côté de la Chambre des représentants et du Sénat, dominé maintenant par les Républicains.
Écoutez, je crois que pour Obama, il faudrait quand même qu'il réalise quelque chose avant de partir ce qu'on appelle son legs, son héritage, et ainsi de suite. Il faudrait donc qu'il trouve un moyen, comme l'avait fait Clinton, vous vous souvenez, en 1994.
Avec Newt Gingrich.
Avec Newt Gingrich et les Républicains. Clinton avait su manœuvrer avec le Congrès. Il a damé le pion aux Républicains et il a repris du poil de la bête.
Idrissa Seydoudia en studio pour une analyse après cette victoire républicaine hier aux États-Unis.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Du nouveau sur les massacres qui ont fait une centaine de morts le mois dernier à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. 200 personnes ont été arrêtées, dont des membres du groupe rebelle ougandais musulman des forces démocratiques alliées, appelées ADF. C'est ce qu'annonce la mission de l'ONU en RDC, qui dit avoir fourni un soutien logistique à la police congolaise. Des armes, des munitions de guerre, des bombes, des radios et de nombreux effets militaires ont été saisis au cours de ces arrestations, souligne la MONUSCO.
Dans le nord-ouest de la Tunisie, 4 militaires ont péri dans une attaque contre leur bus, a annoncé le ministère de la Défense à l'AFP, en évoquant une opération terroriste. Deux hommes armés se sont approchés de ces cibles et ont tiré, expliquent les autorités. 11 militaires ont également été blessés. Aucun civil n'était à bord du bus. L'attaque s'est produite au niveau de Nibeur, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière algérienne.
La première personne contaminée par le virus Ebola hors d'Afrique, Teresa Romero, a quitté aujourd'hui l'hôpital à Madrid, en Espagne. Le point sur les autres développements avec Nathalie Barge.
La mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola a annoncé des améliorations significatives dans la lutte contre la maladie, disant qu'il ne faut cependant pas baisser la garde, voire même fournir encore plus d'efforts. Le coordonnateur Ebola pour le ministère de la Santé guinéen, Aboubacar Sidiki Diakité, affirme également que le nombre de nouveaux cas a chuté en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Le défi maintenant est de retracer les personnes qui ont été en contact avec un malade d'Ebola, a-t-il souligné.
Le suivi des contacts est majeur, parce que vous perdez un contact. Or, logiquement, il est dit que environ 16% des contacts développent la maladie. Donc, si vous ratez un contact, vous avez créé un risque. Et le risque est toujours important parce qu'un cas d'Ebola est une épidémie. Donc il faut faire en sorte qu'aucun contact n'échappe. Et c'est ça le véritable défi, le véritable challenge.
Au Mali, une quarantaine de personnes qui ont voyagé en autobus avec une fille de 2 ans morte d'Ebola le mois dernier sont toujours recherchées pour des tests, a indiqué l'OMS. La fillette a succombé à la maladie après être rentrée de Guinée. Critiquée pour sa gestion de la crise Ebola, l'OMS a élu sa nouvelle directrice pour l'Afrique, le docteur botswanais Rebecca Mweti. Elle remplacera l'Angolais Luis Gomez Sambo début 2015. Malgré de nombreuses alertes d'ONG, l'OMS n'a tiré la sonnette d'alarme que le 8 août, soit 5 mois après l'apparition des premiers cas suspects.
Vive tension à Jérusalem où une nouvelle attaque à la voiture Bélier a fait un mort et plusieurs blessés sur le mont du Temple ou esplanade des mosquées. Amman a rappelé son ambassadeur accusant Israël de violations répétées sur ce lieu saint du judaïsme, de l'islam et du christianisme. Claire Morin-Gibourg.
Le secrétaire d'État John Kerry a condamné l'attaque et appelé toutes les parties à la retenue. Il s'exprimait à Paris, en route pour Pékin, avant un entretien avec son homologue jordanien Nasser Joudé. La Jordanie a rappelé son ambassadeur à Tel Aviv pour protester contre ce qu'elle qualifie de « multiples violations de l'État hébreu sur l'esplanade des mosquées ». Amman menace de saisir les Nations Unies. La Jordanie est l'un des deux pays arabes à avoir signé un traité de paix avec Israël. L'attaque de ce mercredi à Jérusalem a tué un policier et blessé une dizaine de personnes selon les autorités. Elle intervient deux semaines après un incident similaire où un chauffeur palestinien avait foncé sur une station ferroviaire avec sa voiture, tuant un bébé israélien et faisant 8 blessés. Les Palestiniens dénoncent comme une provocation les visites répétées de juifs sur l'esplanade des mosquées. De l'autre côté, des ultranationalistes israéliens demandent l'autorisation de prier sur ce site religieux important pour les juifs. Il y a eu aujourd'hui encore un affrontement entre policiers et Palestiniens qui jetaient des pierres après l'annonce d'une visite par des nationalistes juifs.
Le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a rencontré ce mercredi le ministre britannique de la Défense Michael Fallon pour des discussions portant sur la lutte anti-djihadiste. Cette visite intervient alors que, selon le Times britannique, la Grande-Bretagne se prépare à envoyer des instructeurs en Irak afin d'entraîner les forces armées locales à combattre les djihadistes. La Grande-Bretagne mène en Irak des frappes aériennes dans le cadre d'une campagne dirigée par les États-Unis contre les militaires de l'État islamique.
Le gouvernement ukrainien a annoncé aujourd'hui la suspension de tout financement aux régions de l'Est contrôlées par les rebelles séparatistes pro-russes. Cette mesure, a dit le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk, restera en place tant que les régions de Donetsk et Lugansk seront tenues par ce qu'il qualifie de terroristes. Ces deux zones ont légitimé les chefs rebelles dimanche dans un scrutin législatif soutenu par Moscou mais rejeté par Kiev et ses alliés occidentaux.
L'administration Obama a rendu un détenu de Guantanamo au Koweït mercredi à l'aube et se prépare à en libérer une quinzaine d'autres cet hiver après des mois de blocage. C'est le premier transfert d'un détenu de Guantanamo en 5 mois. Cela porte à 148 le nombre de prisonniers sur cette base navale près de Cuba. Mais l'administration Obama a réitéré son intention d'accélérer le transfert en accord avec la loi dans le but ultime de fermer la prison, rappelle l'agence France Presse.
Le Monde, aujourd'hui sur la Voie de l'Amérique, chez Rubin Dorcil et Morgane Guériec, en votre compagnie, en direct du studio 13 à Washington. Nos dossiers du jour. Nous parlerons tout d'abord, Morgane, de l'impact du blanchiment d'argent sur l'économie, la corruption, la concurrence déloyale. Ce sont quelques-uns des méfaits de cette pratique illicite au Mali. Pour lutter efficacement contre ce phénomène, il a été créé une structure dénommée Cellule nationale de traitement des informations financières, nous dit Kassim Traoré.
Les secteurs de production sont les bases de l'économie d'un pays. Quand le blanchiment des capitaux atteint ces secteurs, l'économie ne peut pas bien marcher. Cela peut avoir comme conséquence la concurrence déloyale, la corruption, d'où l'insécurité du système financier. Modibo Sylla, président de la Cellule nationale de traitement des informations financières.
Le blanchiment impacte négativement sur l'économie d'un pays à plusieurs titres. Premièrement, ça a un effet négatif sur l'intégrité du système financier. L'argent blanchi qui est mis dans une banque, et lorsque cette banque est convaincue que c'est de l'argent issu d'origine illicite qui est mis, ça met en cause l'intégrité de la banque. Donc ça force le système financier. Deuxièmement aussi, ça force la concurrence. Parce que le blanchisseur, son objectif n'est pas de faire une rentabilité. Son objectif, c'est de sécuriser son argent. Donc lui, il vient, les prix, il casse les prix. Par exemple, s'il a 200 millions, son objectif, c'est de gagner, de sécuriser 50 millions. Il sacrifie les autres sur 50 millions pour sauvegarder ces 50 millions. Donc ils cassent les prix, ne serait-ce que ces 50 millions soient sauvegardés.
Et... En cassant ces prix, c'est une voie ouverte à la concurrence déloyale. Le blanchiment des capitaux stimule aussi la corruption.
Donc il force la concurrence. Le troisième point, le blanchiment des capitaux est un facteur qui stimule la corruption. Et tout le monde sait l'effet de la corruption sur l'économie du pays. Et la narcotrafic, ça touche aussi même la sécurité du pays. Et ils, quand ils arrivent avec leur argent facilement gagné, ils essaient de corrompre les décideurs et pour prendre des décisions qui sont en leur faveur.
Face à ces fléaux, le Mali s'est doté d'un arsenal conséquent avec comme point focal la cellule nationale de traitement des informations financières dont Modibo Silla est le président.
En ce qui concerne le Mali, nous avons adopté une loi anti-blanchiment qui est la loi 066 qui définit les concepts et qui dit qu'il y a des services et des structures désignées qui doivent faire des déclarations de soupçons à la CNTIF, telles que le trésor, les banques, les agents immobiliers et les porteurs d'affaires, ainsi de suite. Donc il y a la cellule nationale de traitement des informations financières qui a été créée et cette cellule qu'on appelle CNTIF.
C'est cette cellule de renseignement financier qui reçoit les déclarations de soupçons et fait des investigations avant les sanctions.
Et lorsqu'il y a des faits avérés, il saisit le pôle économique par un rapport au procureur. Mais maintenant, quelqu'un qui est convaincu par la justice de blanchiment des capitaux court des peines de prison allant de 3 ans à 7 ans, et sans compter aussi les pénalités financières et le blocage de la saisie de tout bien y afférent.
Le blanchiment des capitaux peut nuire facilement à l'économie d'un pays. Il est perceptible dans plusieurs niveaux de l'économie. Et pour le combattre, il faut l'union de tous. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Nous partons au Burkina Faso. Les trois chefs d'État, le président du Ghana, le Sénégalais Macky Sall et le Nigérian Goodluck Jonathan ont surpris tout le monde en demandant aux acteurs de proposer des noms pour le poste de président de la transition. L'opposition politique n'a pas voulu se plier à une telle demande, mais la société civile, elle, a proposé des noms.
L'ensemble des acteurs ont été surpris par la décision des chefs d'État de demander séance tenante des noms. Or, pour les acteurs de la société civile et même politique, les choses devaient être actées dans les 2 semaines qui avaient été données comme deadline pour également réussir la transition et de passer le témoin au civil. À ce moment-là, les 2 semaines auraient été mises à profit pour arrêter le canevas de la transition, ce qu'ils appellent la charte de la transition, ensuite mettre les institutions et mettre les profils nécessaires pour l'occupation de la tête de ces institutions-là. C'est au moment où ils étaient en train de travailler à ça que, évidemment, l'arrivée des chefs d'État, qui était considérée au départ comme une arrivée information, se transforme finalement par une arrivée instruction.
Et comment les gens ont réagi?
Ils étaient perplexes parce que tout à l'heure, évidemment, il y en a qui ont obtempéré, il y a d'autres qui ne l'ont pas. Notamment, sauf si ça change, les informations qui ont circulé, c'est qu'au niveau du CFOB, évidemment, ils ont pensé que cette façon de procéder n'était pas respectueuse, évidemment, du pays et des acteurs, et qu'il fallait faire confiance aux acteurs et leur donner au moins une semaine pour que, dans le cadre des procédures arrêtées, ils puissent consensuellement, au niveau du Burkina, arrêter la personne ou désigner la personne qui va diriger la transition. Donc, et puis, ils trouvaient que la CEDEAO, ils trouvaient que du point de vue de la souveraineté du Burkina Faso, la CEDEAO ne pouvait pas. Parce que si on donne les noms, est-ce que c'est les chefs d'État qui vont le proclamer ou est-ce que c'est une désignation in situ, une interne? Donc voilà, tous ces éléments-là ont fait que le CFOB n'était pas d'accord. Mais je pense que les autres acteurs, la société civile par exemple, avaient obtempéré.
Comment tout cela va se dénouer?
Il me semble que les chefs d'État, je ne sais pas, sauf à plus informer, les chefs d'État ont plutôt intérêt à maintenir le consensus national. Il faudrait probablement que la transition soit actée dans un concert consensuel. Si eux-mêmes devraient venir aggraver le climat de suspicion et donc contribuer à la division des acteurs, à ce moment-là, il faut craindre que la transition ne s'enclenche de la plus mauvaise des façons.
Voilà, c'était Newton Ahmed Barry, rédacteur en chef du journal L'Événement Burkina Faso. Il était au micro de Bagassi Koura.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, près de 2000 personnes ont fui des attaques d'un groupe de miliciens sécessionnistes appelé Bakata Katanga. Eddy Isango revient sur la situation qui prévaut dans cette région.
Les déplacés avoisinent le nombre de 2000. Ils sont contrés à l'errance par l'avancée des près de 600 combattants qui apparemment se dirigent vers Lubumbashi, capitale de la province riche en minerais du Katanga. L'évêque de Kilwa, Kasenga, Monseigneur Jean-Fulgence Muteba, que nous avons interviewé, affirme que les déplacés ne sont pas assistés.
Les gens se sont précipités pour se sécuriser. Normalement, le mode opératoire des miliciens, c'est l'incendie des maisons. Dans des villages, effectivement, il y a des villages qui ont été incendiés.
De nombreuses opérations militaires ont été menées contre ces groupes dont les leaders ne s'est jamais identifié, mais qui fait de la sécession du Katanga son objectif ultime. Monseigneur Muteba parle de la complicité dont les groupes bénéficieraient de la part des forces de sécurité.
Ils disent officiellement qu'ils s'étaient entendus avec leurs commanditaires qu'il n'y aurait plus d'attaque jusqu'en 2016. La date butoir justement pour la date à laquelle il y aura des élections présidentielles. Comme ils ont été attaqués, ils disent qu'ils vont demander des explications aux autorités, à leur chef. C'est le motif qu'ils avancent. La plupart d'entre eux ne connaissent même pas les frontières du Katanga. Alors, on pense que c'est un prétexte, mais généralement, ce sont des jeunes gens désœuvrés, parfois même des illettrés, des gens qui sont manipulés. Mais ils avancent ça comme motif parce qu'ils disent que toutes les richesses du Katanga sont acheminées à Kinshasa. Généralement, ils profitent du comportement des tracasseries des agents de l'État, des policiers ou des agents du service de renseignement.
L'armée congolaise et la mission des Nations Unies qui sont présentes dans la région n'ont jamais pu mettre fin aux activités de ces groupes de miliciens. Aux dernières nouvelles, l'armée congolaise a délogé mercredi matin un groupe de ces miliciens de la localité de Moussoumari.
C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Dans les années 1950, la célèbre rumba congolaise dominait le continent. Un demi-siècle plus tard, elle n'a rien perdu de sa jeunesse, même si elle a subi entre-temps de nombreux et radicaux liftings. Parmi ses chirurgiens les plus inspirés, Papa Wemba, l'homme plein de vivacité, d'humour, d'intelligence et de talent. On écoute le plus grand sapeur congolais ce soir, dont Victime de la mode.
Victime de la mode. Chakwala, Matmananja, Sikio, Ari Papa, Gabela Kolanza, Nyangoe, Nyangoe, Nyangoe.
Papa Wemba crée en 1977 Viva la Musica, groupe d'une quinzaine de musiciens hein, qui, après de multiples transformations, existe toujours 20 ans plus tard. À ce moment-là, le jeune homme est une star dans tout le Zaïre et au-delà même des fleuves qui encerclent le pays. Son impact dépasse de loin le cadre de la musique. Dans les faubourgs de Kinshasa, étendu sur toute une parcelle d'habitation, le chanteur recrée un village, le village Molokai, dont il s'intronise chef coutumier Morgan.
Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Morgan.
Retrouvez Roger Muntou tous les soirs dans le RM Show à 20h temps universel.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Mise en onde par Lionel Gaïma avec Paul Marcoulier à la console technique. Ici, Chérubin Dorsil
et Morgane Diriec.